Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Je vous propose de lever aujourd'hui les yeux vers le sommet du ciel pour observer une discrète mais néanmoins très repérable constellation, la couronne boréale. Elle est effectivement formée d'étoiles disposées en arc de cercle et l'étoile centrale, Alpheca, est plus brillante que les autres et elle forme un diadème. Elle est le pendant septentrional de la couronne australe, que vous aurez l'occasion d'admirer près de la constellation du Sagittaire si vous êtes dans l'hémisphère sud. Boréale venant du latin borealis, qui signifie le nord. La couronne boréale est visible toute la nuit en été. La mythologie grecque rapporte que la couronne boréale aurait été forgée par Héphaïstos, le dieu de la forge et des volcans, à partir d'or et de pierres précieuses de l'Inde, dont le brillant servit à éclairer Thésée dans les sentiers obscurs du labyrinthe. Cette couronne aurait été offerte à Ariane, la fille du roi Minos. La belle Ariane, fille du roi de Crète, Minos, et de Pasiphaé, celle qui brille pour tous, la fille d'Hélios, le soleil. Ariane a donc une double ascendance royale et divine. Pour autant, sa vie ne sera pas bien facile. Elle appartient à la famille des amoureuses maudites. Sa mère, Pasiphaé, victime d'une vengeance de Poséidon, succombe à sa folle passion pour un superbe taureau et donne naissance, après son union avec lui, au Minotaure. Ce monstre hybride, mi-homme, mi-taureau, caché dans le labyrinthe et que Thésée entreprend de tuer. Quant à sa sœur, Phèdre, elle épouse ultérieurement Thésée avant de brûler d'un amour incestueux pour le fils de son époux, Hippolyte. L'aventure d'Ariane débute, pour nous, lorsqu'elle s'éprend du héros Thésée. Thésée, fils du roi athénien Égée, débarque en Crète avec 6 autres jeunes hommes et 7 jeunes filles pour être livré en tribut au Minotaure. Bien décidé à mettre fin à ce sanglant sacrifice qui se déroule chaque année, ou tous les 9 ans selon les versions, il est prêt à en découdre et à tuer la fabuleuse créature. Aidé d'Aphrodite, il inspire l'amour à la jeune princesse crétoise Ariane, qui lui apporte son aide précieuse. Elle lui divulgue diverses informations et lui remet une pelote de fil, fournie par Dédale, le concepteur du labyrinthe dans lequel se trouve le Minotaure. C'est ainsi que le jeune héros peut retrouver sa voie grâce au fil d'Ariane et sortir vainqueur de cette épreuve. Ariane, qui aime éperdument Thésée, le suit dans son retour à Athènes. Mais Thésée l'abandonne sur l'île de Naxos. Survient alors Dionysos, le dieu des vins et du théâtre, qui a le pouvoir de changer de forme. Il rencontre Ariane sous les traits d'un beau jeune homme. Ce jour-là, elle était profondément endormie, épuisée par des pleurs. Elle lui a coupé le souffle, elle était si belle. Il attendit patiemment qu'Ariane ouvre les yeux. Elle vit un beau jeune homme qui la regardait avec admiration. Ariane se sentit immédiatement mieux. Elle raconta à Dionysos ses nobles efforts pour sauver Thésée et les enfants d'Athènes. « Et regardez où ça m'a mené, » renifla-t-elle. « Pauvre petite chose, » dit Dionysos avec beaucoup de sympathie. Il demanda immédiatement à la charmante et jeune Ariane de l'épouser. Ariane, ne se sentant plus délaissée ou sans amis et ravie d'être admirée par ce beau jeune homme, manifestement riche, il n'y avait qu'à voir ses vêtements, consentit à devenir sa femme. Eh bien, croyez-le ou non, Ariane et Dionysos vécurent heureux pour toujours. Et afin de pouvoir vivre toujours ensemble, Dionysos lança la couronne d'Ariane dans le ciel, affirmant ainsi à la jeune fille son appartenance à la caste des dieux de l'Olympe. Voici comment la couronne boréale s'est retrouvée tout en haut de notre ciel. Dans la mythologie des Indiens Blackfoot d'Amérique du Nord, société très proche de la nature, elle serait le dieu araignée qui surveille la terre depuis sa toile, la voie lactée étant le fil avec lequel elle descend sur terre. Les Chinois, de leur côté, imaginent une prison. Ou ne serait-ce pas plutôt la muraille qui encercle leur territoire ? A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you feed your own pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. dans la couronne boréale a été observé un phénomène très rare et assez étrange. Il s'agit d'une nova récurrente. C'est une étoile qui devient brutalement extrêmement brillante, avec une grande augmentation de son éclat, qui peut être de l'ordre de 10 magnitudes. Cette vive luminosité ne dure que quelques jours, et l'étoile reprend ensuite progressivement son état initial. L'écrivain Anatole France, dans son « Jardin d'Épicure » paru en 1894, parle de cette observation, mais sans en connaître la cause. Je le cite. « Avons vu, en 1866, une étoile s'allumer tout à coup dans la couronne boréale, briller pendant un mois, puis s'éteindre. » Quelques explications. D'abord, le terme « nova » vient du latin « novae », nouvelle. Les astronomes qui les découvraient les considéraient comme des nouvelles étoiles, puisqu'elles apparaissaient là où il n'y avait pas d'étoiles précédemment, et les ont donc appelées des novas. Certaines novas sont récurrentes, et ont subi plusieurs explosions depuis qu'elles ont été observées, avec des intervalles de l'ordre de plusieurs décennies. La plupart, cependant, sont des explosions de grosses étoiles, les supernovas, mais nous en reparlerons. Ensuite, j'ai parlé, pour qualifier la luminosité d'une étoile, de la magnitude. Prenons le temps un petit peu d'expliquer ce terme qui est omniprésent en astronomie. En astronomie, la magnitude est une mesure sans unité de la luminosité d'un objet céleste, soit dans le spectre visible, soit dans l'infrarouge. C'est une détermination assez imprécise, mais systématique, de la grandeur des objets, qui est introduite dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est attribuée soit à Hipparque, soit à Ptolémée. Le mot magnitude signifie taille. En effet, un astre plus brillant, comme Vega ou Sirius, a l'air plus grand qu'une étoile faible. Or, vous le savez, les étoiles ont des tailles variables, mais aussi des distances variables de la Terre. Mais par le passé, on n'avait que l'apparente luminosité des étoiles pour les classer. C'est donc ce qu'on a fait. On parlait alors de grandeur. Les étoiles les plus brillantes de notre ciel, comme par exemple Sirius, Altaïr ou Vega, celles qui apparaissaient les premières à la tombée de la nuit appartenaient à la première grandeur. Les plus faibles étaient classées à la sixième grandeur. Et ce n'est que dans les années 1850 qu'un astronome britannique remarqua qu'un facteur 100 séparait la luminosité des étoiles de première et de sixième grandeur. Est venue alors l'idée d'utiliser une échelle logarithmique pour les classer. L'échelle des magnitudes qu'emploient aujourd'hui les astronomes correspond à ce qu'on nomme une échelle logarithmique inverse. Le passage d'une magnitude à l'autre se fait par la multiplication de la luminosité par environ 2,5. Le terme inverse signifiant que plus la magnitude est petite, voire négative, plus l'astre est lumineux. Par exemple, une étoile de magnitude 1 sera 2,5 fois plus brillante qu'une étoile de magnitude 2. Le Soleil a une magnitude apparente de moins 27. C'est évidemment l'étoile la plus brillante de notre ciel. Et Sirius, l'étoile nocturne la plus brillante, est de moins 1,46. Il existe aussi la magnitude absolue, qui mesure la luminosité intrinsèque d'un objet. Elle est définie comme étant égale à la magnitude apparente qu'aurait cet objet s'il était placé à une certaine distance de la Terre, qui correspond pour les étoiles à 10 parsecs. Je vous expliquerai ce qu'est un parsec une autre fois, car j'aimerais qu'on revienne à notre nova récurrente. Une nova est donc une étoile qui devient très brillante sur un court laps de temps, quelques semaines, puis revient à sa luminosité habituelle, voire disparaît. Une nova récurrente est une étoile qui connaît régulièrement ses variations de luminosité. Alors la question qui vient naturellement, c'est pourquoi ? Les novas sont en général des systèmes binaires, où une grosse étoile, par exemple une géante rouge, est proche d'une naine blanche. Cette seconde étoile, petite et avec une forte gravitation, tend à attirer les couches supérieures de son étoile compagnon. Elle attire l'hydrogène et le capture dans son champ de gravitation, ce qui fait monter la température du gaz, jusqu'à plusieurs dizaines de millions de degrés. À certains moments, les pressions et températures de la couche d'hydrogène deviennent assez grandes pour déclencher une explosion thermonucléaire, qui convertit rapidement une grande quantité d'hydrogène en hélium et engendre aussi des éléments plus lourds. L'énergie libérée par ce processus expulse les gaz de la couche de surface de la naine blanche dans l'espace et produit un éclat extrêmement lumineux, mais de courte durée. C'est ce qu'on observe depuis la Terre. Une naine blanche peut aussi produire des novas à de multiples reprises. tant que de l'hydrogène provenant de son étoile compagne peut s'accumuler sur sa surface. Par exemple, dans la galaxie d'Andromède, l'étoile M31N2812A explose chaque année, à peu près à la même période, vers le mois de novembre. Cette particularité a permis aux scientifiques de l'observer avec attention, afin de mieux comprendre le mécanisme des novas. Mais alors, est-ce que 12A va exploser encore et encore indéfiniment ? En fait, non. À chaque explosion, elle gagne de la masse. Et quand la naine blanche atteindra sa masse maximum, elle explosera comme une supernova, c'est-à-dire une explosion de dizaines de milliers de fois plus puissante qu'une nova. L'explosion détruira complètement l'étoile et contribuera grandement à la création d'éléments chimiques de l'univers. Certains de ces éléments sont d'ailleurs produits uniquement dans des novas. La présence de lithium dans l'univers, ce métal que l'on retrouve dans les batteries des smartphones et des voitures électriques, est étroitement lié aux éruptions de novas. Pensez-y la prochaine fois que vous utiliserez votre téléphone. Et dans notre constellation de la couronne boréale, il y a une autre étoile variable. Elle s'appelle R Coronae Borealis. C'est une étoile supergéante jaune de faible masse. Sa particularité, c'est que sa luminosité chute de plusieurs magnitudes à intervalles irréguliers. R brille normalement avec une magnitude d'environ 6, c'est-à-dire tout juste visible à l'œil nu. Mais à des intervalles allant de quelques années ou quelques décennies, elle s'affaiblit jusqu'à atteindre parfois la 15e magnitude. Et lors des mois suivants, elle revient graduellement à sa luminosité normale, lui donnant le surnom de nova réversible. La cause de ce comportement est attribuée à une accumulation régulière de poussière de carbone dans l'atmosphère de l'étoile. La soudaine chute de luminosité pourrait être causée par la condensation rapide d'une poussière riche en carbone, similaire à de la suie, conduisant donc au blocage d'une grande proportion de la lumière de l'étoile. Le retour graduel de la luminosité résulte probablement de la dispersion de la poussière par la pression de la radiation émise par l'étoile.